Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Aujourd'hui, des ribines à l'âge de pierre et au sud de l'actuel Finistère, du côté de Plouinec, où se trouve le double site préhistorique de Ménez-Drégan et de la Pointe du Sourd. On y domine la baie d'Audierne et sa mer, pas toujours tranquille. En dehors de son paysage, c'est pour les archéologues l'un des sites de référence. Vous allez comprendre pourquoi en suivant la guide de Ménez-Drégan, Lauriane Nedelec.
Donc bonjour à tous, bienvenue à Ménez-Drégan. Et ici on est même sur une pointe qui s'appelle la Pointe du Sourd. Donc ensemble on va parler d'archéologie, de préhistoire et plus particulièrement de deux grandes périodes de la préhistoire que sont le paléolithique et le néolithique. Donc le paléolithique, la première période de la préhistoire, et le néolithique, la dernière. Avant vraiment de commencer la visite avec la grotte de Ménez-Drégan et le paléolithique, j'aimerais que vous regardiez bien le paysage immédiat. Quand je dis immédiat, c'est vraiment ici, entre nous et la mer. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous interpelle? Les trous?
Oui.
Vous voyez, il y a deux cuvettes, vous en avez une juste là. Et la deuxième, elle est juste ici. Ce sont d'anciennes carrières de pierre qui datent de l'époque néolithique. Ce qui veut dire que les hommes au néolithique, pour construire les dolmens de la Pointe du Sourd qui sont juste derrière vous, ils ne sont pas allés chercher leurs pierres très loin. Alors le néolithique, on va le laisser un petit peu pour le moment, on en reparle tout à l'heure. Et là, on va plonger plus profondément dans la préhistoire. Quand je dis plonger, c'est parce qu'on va aller au bord de la falaise pour voir la grotte de Ménez-Drégan et pour parler de l'homme qui y vivait.
Et en effet, nous allons remonter le temps jusqu'à l'époque très lointaine à laquelle l'homme a commencé à domestiquer le feu. À Ménez-Drégan, on remonte plus de 450 000 ans avant notre ère, à l'époque de l'Homo heidelbergensis.
Alors donc ici, on est juste devant la grotte de Ménez-Drégan. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas tellement à une grotte. Hein. Alors le toit, le plafond de la grotte, en fait, il s'est effondré durant la préhistoire. Mais il faut bien imaginer que la grotte, eh bien le plafond il allait jusqu'ici à peu près. Donc tout ça, c'était la grotte. Alors là, le rocher où je me trouve, les archéologues pensent que c'est un rocher qui formait comme une sorte de pilier et qui séparait l'entrée de la grotte en deux. Donc une grande entrée ici et une plus petite juste là. Ils n'avaient pas les pieds léchés par les vagues à cette époque. Il faut bien imaginer que le paléolithique, il est marqué par des faits climatiques importants que sont les glaciations. Donc qui dit glaciation, dit formation de glaciers. Et donc la mer a été beaucoup plus éloignée. Alors quand l'homme vit dans la grotte, eh bien la mer, elle est environ à 5-10 km de là. Elle a déjà été plus loin pendant les très fortes périodes de glaciation. La mer, elle est même allée jusqu'à une quarantaine de kilomètres plus loin. Mais quand l'homme vit dans la grotte, c'est 5-10 km. Il y avait des plaines et il y avait surtout les gros herbivores et un super territoire de chasse. Elle devait faire à peu près 60 mètres carrés. Elle est exposée plein sud. Moi, je trouve que c'est pas mal, non? Ah ben, ils avaient une belle vue. Hein. Moi, la mer, d'accord, elle a 5-10 km, mais ils avaient une superbe vue sur une plaine. C'était pas mal. En sachant que ils vivaient pas toute l'année ici. Voilà, c'est à cette époque, ils sont nomades. C'est des chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades, ils suivent le gibier. Certains archéologues m'ont dit que c'était sûrement des familles, mais des grandes familles. Quoi. Ça devait être 5, 10, 15 maximum. Mais c'est vraiment des suppositions. Parce qu'on ne pourra jamais vraiment savoir combien il y avait de personnes à vivre. En sachant qu'il y avait d'autres grottes aussi. Hein. Il y a un petit ruisseau. C'est lui qui maintenant fait la frontière entre le Pays Bigoudin et le Cap Sizun. À l'époque, je ne pense pas qu'il y avait une frontière comme ça, mais au moins, il y a de l'eau douce qui est à 800 mètres, à 1 km de là. Et vous avez également la rivière, le Goyenne, qui n'est pas trop loin non plus. Donc là, à peu près à 4-5 km. Donc, ils avaient vraiment des points d'eau douce à proximité. Alors, on ne sait pas exactement quand elle s'est effondrée durant la préhistoire. Et c'est vrai qu'il y a des morceaux du plafond qui, des fois, sont un petit peu partout dans toutes les couches archéologiques. Donc là, les archéologues ne savent pas vraiment. Ils savent que c'est durant la préhistoire, puisque on retrouve des morceaux du plafond dans plusieurs couches archéologiques. Mais exactement quand, ça, on ne sait pas. Alors, pour ceux qui ont suivi vraiment tout le début, vous avez vu les différents crânes. Et je vous ai montré le crâne de celui qui vivait dans la grotte de Menazrigan. C'est un Homo heidelbergensis. Alors, il vivait dans la grotte de Menazrigan. Il a vécu ici. La grotte, elle a été habitée pendant environ 200 000 ans. Mais les premières traces anthropiques, c'est-à-dire les premières traces laissées par l'homme, des vestiges laissés par l'homme dans la grotte, datent de moins 465 000 ans. Voilà. Donc l'Homo heidelbergensis qui vit à cette époque ici. Alors, la grotte, elle a été découverte, elle, en 1985. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Et elle a été fouillée, il y a eu des sondages qui ont été faits en 1988 et en 1989. Et elle a été fouillée à partir de 91. Vous voyez, ça fait déjà plus de 20 ans qu'elle est fouillée et il y en a encore pour quelques années de fouilles. Donc elle est fouillée par une équipe de recherche du CNRS de l'Université de Rennes. Alors le directeur en chef du chantier de fouilles pendant plus de 20 ans a été monsieur Jean-Laurent Monnier. Il a pris sa retraite il y a un an et demi, et il a été remplacé par madame Claire Gaillard. Alors les fouilles, elles ont lieu tous les étés au mois d'août. Donc si vous revenez au mois d'août, eh bien vous ne verrez pas des plaques de métal, vous verrez à la place des fouilleurs. Les plaques de métal, si vous voulez, elles sont là pour protéger le sol contre les intempéries. Hein. On en a eu pas mal en plus cet hiver. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Et également contre les hommes aussi. Voilà. Alors, la grotte, elle a été découverte, je vous disais, en 85 par un géologue, monsieur Bernard Alléguette, donc de l'Université de Bretagne occidentale. Et Bernard Alléguette, il faisait des recherches sur le Pléistocène, donc le Pléistocène qui est une ère géologique. Et pour faire ses recherches, eh bien, il est descendu en bas des falaises pour pouvoir lire les différentes couches géologiques de la falaise. Et il s'est rendu compte qu'à certains endroits de la falaise, eh bien, il y avait des silex et que ces silex, bah, ils étaient taillés et qu'il y avait même des morceaux de charbon de bois. Il a trouvé d'autres grottes, celle-ci c'est celle qui était très bien pour être fouillée, tout simplement parce que le plafond il s'est effondré et c'est un mal pour un bien puisque ça a permis de garder tous les vestiges archéologiques, voilà. Enfin tous ceux qui ont bien voulu rester jusqu'à nous. Puisque je vous parlais de l'homme qui a vécu dans la grotte pendant, il y est resté pendant environ 200 000 ans, à partir de moins 465 000 ans. Sauf que déjà pendant 200 000 ans, c'est forcément pas le même. C'est plusieurs groupes différents. Et en plus, eh bien, durant ces 200 000 ans, il y a eu des changements climatiques, même si c'est les aires glaciaires. Eh bien, il y a des périodes qui sont un petit peu plus de réchauffement. Et à certaines périodes, la mer, elle est revenue dans la grotte. Donc dans cette grotte, si vous voulez, il y a des couches anthropiques, c'est-à-dire des couches où l'homme a laissé des vestiges, et des couches purement sédimentaires, donc laissées par la mer. Donc en tout, il y a 9 couches différentes. Alors le souci, les hommes de Menazrigan, eh bien, il faut qu'ils aient des outils. Donc pour ça, ils taillaient différents matériaux, différentes pierres, dont le silex. Et là, la colle. Il n'y a pas de silex en Bretagne. Mais il y en a dans la mer au large. Et si vous vous promenez sur les plages, hein, à Gouendrez ici, ou même il y a des petites grèves par ici, vous allez trouver des galets de silex. Mais si vous vous promenez à 10 km dans les terres, vous ne trouverez pas de silex. Si vous en trouvez, c'est un apport humain. Donc le silex breton, c'est le silex qui vient de la mer. Vous n'en trouvez pas, par exemple, à Carhaix, à Brocéliande, ou si vous en trouvez, c'est l'homme qui l'a apporté. Il n'y en a pas naturellement dans le sol breton, mais il y en a dans la mer. Voilà, puisque le sol breton, bah, c'est un massif aussi. On en trouve ici, mais du coup, c'est des petits galets de silex. Alors, c'est pour ça que l'homme à Menazrigan, Eh bien, il va tailler le silex, mais il va faire des petits objets en silex. Mais par contre, il a également besoin de gros outils. Et comme il n'a pas de gros galets de silex, il va utiliser ce qu'il a sur place. Il va utiliser d'autres galets, les galets que l'on trouve ici, donc du grès, du gneiss, du microgranit, du quartz. Et ces galets, c'est ce qu'on appelle, les galets qu'il va tailler, c'est ce qu'on appelle des galets aménagés. Ou alors, on appelle ça également des choppers. Je vous en montre un. Donc c'est une copie, je précise, tout simplement parce que ceux qui sont trouvés dans la grotte, ils sont au CNRS, ils sont à Rennes, à l'université, et ils sont en train d'être étudiés. Donc voilà, là vous avez un chopper, un galet aménagé, donc taillé, vous voyez, sur une face. Alors c'est une copie, mais elle a quand même été faite par Jean-Laurent Monnier, l'archéologue du site.
Ok.
Et je vous montre également des photos d'outils taillés sur silex. Alors généralement, voilà, je vous disais, c'est des petits outils, puisque galet petit forcément. Et donc, on trouve notamment des outils que l'on appelle des encoches. Il y a des encoches de fête lors de la taille. Et celui-ci, eh bien, c'est un denticulé. On voit des petites dents. Alors les outils, c'est vraiment ce que l'on retrouve en nombre dans la grotte, les outils, mais aussi les restes de taille. Parce qu'ils ont taillé sur place, donc ils taillent, mais ils ont laissé après ce qui n'était pas forcément utilisable, ils l'ont laissé sur place également. Donc ça, on retrouve vraiment énormément de restes de taille et d'outillage.
Et là, la mer était donc à 5-10 km, mais ils n'allaient pas du tout pêcher, on n'a aucune trace de consommation de produits marins.
Alors, pas encore à cette époque. Ils n'ont rien retrouvé dans la grotte, non. Par contre, ils ont retrouvé des ossements dans la grotte. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que pour ceux qui sont bretons, vous le savez, le sol breton, c'est un sol qui est très acide. Et donc, généralement, on ne retrouve pas grand-chose de tout ce qui est organique ou autre. Eh bien, ça disparaît assez rapidement. Alors ici, on a retrouvé des traces d'ossements dans la grotte. Et notamment, on a retrouvé une dent d'éléphant. Alors maintenant, je vous laisse imaginer une plaine derrière vous à la place de la mer et des éléphants qui passent. Éléphant. Alors le mammouth, il arrivait en Bretagne un petit peu plus tard, au paléolithique moyen. Donc au paléolithique inférieur, c'est l'éléphant. Alors, c'est pas le même éléphant que maintenant. C'est un Palaeloxodon anticus. Alors je vous le fais simple, un éléphant antique. Voilà. Il ressemble beaucoup à l'éléphant d'Asie actuelle. Après, il y a des animaux comme vous avez le rhinocéros aussi qui vivait à l'époque, mais ce n'est pas le même rhinocéros que maintenant, c'est le rhinocéros laineux. Donc c'est des animaux qui sont adaptés au climat de l'époque. Au paléolithique inférieur, c'est l'ère glaciaire, donc un climat froid, mais en sachant que quand l'homme vit dans la grotte, ce n'est pas le climat le plus froid qui est, puisque la mer elle est quand même elle est éloignée, mais que de 5 à 10 km. Donc c'est pas le climat de maintenant, il fait un petit peu plus froid, mais il ne fait pas non plus des températures excessivement basses non plus.
Et au niveau du peuplement, alors, est-ce qu'on peut relier les hommes qui habitaient ici à ceux qui sont venus d'Afrique ils sont venus d'Afrique
Alors, l'Homo heidelbergensis, c'est, si vous voulez, pendant la même période, il y a plusieurs genres humains dans différents continents. Donc auparavant, on parlait d'Homo erectus. Pour l'Europe, l'Homo erectus, on en parle plus maintenant pour l'Asie, et pour l'Europe, l'Homo heidelbergensis. Et il y avait d'autres hommes qui vivaient en Afrique pendant la même période. Je vous parlais de mon éléphant antique, mais ils ont retrouvé également d'autres traces d'ossements. Ils ont également retrouvé les traces d'ossements d'un périssodactyle. Qu'est-ce que c'est qu'un périssodactyle ? Alors, périssodactyle, ça vient du grec. Dactyle pour doigt. Périsso pour impair, donc c'est un animal qui a les doigts impairs. Et dans la famille des périssodactyles, vous avez les équidés et les rhinocérosidés. Donc comment les archéologues, ils ont trouvé que les traces d'ossements... Alors quand je dis traces, c'est parce que les ossements, ils étaient tellement détériorés qu'il n'y avait quasiment plus rien. Les archéologues me disaient même que ça ressemblait plus à de la pâte de dentifrice qu'à autre chose, tellement c'était détérioré. Alors, comment ils ont trouvé que c'était un ossement de périssodactyle? Eh bien, pour cela, ils ont fait de la paléogénétique. C'est la recherche de l'ADN ancien. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé que c'était un périssodactyle. Après, ils ne savent pas trop si c'est un équidé, un rhinocérosidé. Chacun ses hypothèses, mais... Et ils ont également retrouvé autre chose. Alors là, c'est une découverte qui est plutôt rigolote. À un moment donné, ils vont faire des prélèvements de terre pour analyser cette terre en laboratoire, trouver s'il y a des traces de graminées, de pollen, pour comprendre justement la flore de l'époque. Et ils vont également trouver autre chose dans cette terre. Ils vont retrouver un kyste de Toxocaracanis. C'est un œuf de ver que l'on retrouve dans l'estomac. Actuellement, on peut trouver ça dans l'estomac des chiens. Sauf que les chiens, il n'y en avait pas à l'époque. Mais il y avait des hyènes, exactement. Donc, sans doute, un jour, une hyène est passée dans la grotte de Ménazregan. C'est quand même sympa. Par contre, pour la dent d'éléphant, ils l'ont retrouvée au milieu d'un foyer. Donc là, je pense qu'ils se sont fait un bon barbecue. Et justement, les foyers. Je vais vous en parler parce que la grotte de Ménazregan, elle est extrêmement connue par les scientifiques. Puisque c'est dans cette grotte, on a retrouvé les traces de feu, donc des restes de foyers, qui comptent parmi les plus anciens du monde et qui sont, les traces de feu sont les plus anciennes d'Europe pour le moment, parce qu'on sait que les découvertes archéologiques avancent toujours. Mais ici, vous avez les traces de feu les plus anciennes d'Europe qui ont été découvertes ici à Ménazregan. Elles datent de moins 450 000 ans. Les traces de feu les plus anciennes du monde ont été retrouvées en Israël, sur les bords du Jourdain, sur le site de Yesher Benot Yaakov, et à date d'environ moins 750 000 ans à peu près. Il y a un autre site en Chine, Chokodian, qui est également à peu près aux mêmes dates. Alors jusqu'à présent, les archéologues, ils ont découvert 8 structures de combustion. Alors ces structures de combustion, il y a le foyer, moi j'appelle ça le foyer de scout, hein, si vous voulez, avec les pierres tout autour. Mais il y a d'autres, eh bien c'est juste une lentille sablonneuse qui a été rubéifiée, c'est-à-dire qui a été rougie par l'action du feu. Et ils voient que la terre à cet endroit, elle est plus rouge, qu'il y a une concentration de charbon plus importante. Et les archéologues, ils ont vraiment l'œil. Là, ils voient qu'il y a une structure de combustion. Donc 8 pour le moment qui ont été retrouvées dans différentes couches archéologiques. Donc la plus ancienne, donc de la couche 9, on a retrouvé une structure qui, elle, date de moins 450, mais il y en a d'autres qui datent de moins 380, moins 380 000. Il y a différentes couches archéologiques. Alors maintenant, moi, je vous propose qu'on remonte un petit peu dans le temps et on va remonter aussi la falaise, du coup, et on va parler du néolithique avec les dolmens de la Pointe du Sourd. Vous pouvez vous approcher si vous voulez, hein. Alors donc ici, on a fait vraiment une remontée dans le temps. On est arrivé à l'époque néolithique. Alors le néolithique, en France, ça commence à peu près vers moins 6000. Je vous dis en France, pourquoi ? Parce que le néolithique, ça commence à différentes périodes en fonction des pays. Et même des régions de France, ça commence pas tout à fait aux mêmes périodes en fonction des régions de France. Alors au néolithique, eh bien, il va y avoir des grands changements. Alors les hommes, ils continuent évidemment à chasser, à cueillir, à pêcher, mais ils vont également devenir agriculteurs et éleveurs. Alors pour être agriculteur, évidemment, il faut déjà déboiser pour avoir son champ. Alors il faut savoir que à la fin du Paléolithique, c'est également marqué aussi par la fin des glaciations, ça tombe à peu près au même moment. Donc qui dit fin des glaciations ? Évidemment, le temps qui se réchauffe, la mer qui va revenir. Alors les hommes, les hommes au mésolithique et au néolithique, et bah, du coup, la mer, elle est plus ou moins au même niveau. Il y a des changements, évidemment, mais ils ont à peu près la même vue que nous. On a quand même une superbe vue. La vue, elle s'étend sur toute la baie d'Audierne. Alors, donc, fin des glaciations. Certains animaux ne vont pas supporter ce changement de climat, vont disparaître. Alors, jeune homme, tu peux me donner un animal qui existait durant la préhistoire et qui a disparu? Très connu.
Oui. Le mammouth,
voilà, par exemple. Le tigre à dents de sable, voilà, exactement. Il y a aussi le rhinocéros laineux, enfin bon, il y en a quand même quelques-uns. Au profit de plus petits animaux, puisque qui dit changement climatique dit aussi changement de la flore. Et l'Europe va se recouvrir de forêts. Forcément, s'il y a des forêts, bah, il faut déboiser pour faire son champ au néolithique. Donc ils vont déjà couper les arbres et ils vont se rendre compte que leur hache, si la police, le tranchant va moins vite s'émousser, elle va moins facilement se casser. Donc ils vont polir certains instruments, certains outils, et notamment le plus emblématique, la hache. Alors une fois qu'on a déboisé, avec le bois, eh bien, on va pouvoir faire des enclos pour les animaux, par exemple, faire les maisons aussi. Donc au néolithique, ils ont de très longues maisons. Forcément, au néolithique, eh bien, on ne peut plus être nomade. On n'a plus non plus besoin de l'aide parce que les autres étaient nomades, parce qu'ils suivaient la migration du gibier, par exemple. Mais là, on n'a plus besoin. Donc l'homme, eh bien, il va progressivement devenir sédentaire. Donc ça, c'est vraiment les choses importantes au néolithique. Ils deviennent agriculteurs, éleveurs, sédentaires. Ils vont pouvoir utiliser leurs céréales pour se faire d'autres aliments, d'autres nourritures. Des galettes, voilà, tout simplement. Ils faisaient des galettes. Alors, généralement, on me dit du pain, mais il n'y avait pas de levure. Donc, ils font des galettes. Ils peuvent mettre du miel, ils peuvent mettre des fruits, des baies. Alors, le tracéologue, par exemple, c'est un archéologue qui va étudier tous les outils en silex, notamment. Et il va étudier les traces laissées sur ces outils. Et en fonction de la trace laissée sur l'outil, on sait à quoi a servi l'outil. S'il a servi à couper de la chair, s'il a servi à couper du cuir, etc. Et pareil pour la cuisine. Au néolithique, ils savent faire des poteries. Et forcément, la poterie, elle va cuire avec les aliments dedans. Eh bien, ils arrivent à retrouver des restes dans la poterie. Et ça, c'est assez incroyable. Après, il y a aussi ceux qui étudient les ossements laissés dans les dépotoirs, les poubelles tout simplement. Hein. Ils retrouvent différents ossements d'animaux et donc ils savent à peu près quel genre d'animaux étaient mangés. Qui dit céréales hein, dit forcément sucre lent. Donc ils ont beaucoup plus au néolithique, ils vont avoir une alimentation certes plus saine, mais ils vont avoir beaucoup plus de sucre dans le sang. Et qui dit sucre, les enfants, dit
carie.
Dit carie. Voilà. Cependant, on soigne déjà les caries à cette époque-là. Donc la médecine existe déjà à l'époque. Alors, vous allez me dire, c'est pas la même médecine que maintenant, certes, mais il y a déjà une médecine à l'époque. Alors les hommes du néolithique, j'ai oublié de vous dire, c'est les mêmes hommes que maintenant. C'est des Homo sapiens.
À cette époque aussi, les hommes sont beaucoup plus nombreux, assez nombreux pour construire de véritables monuments funéraires, comme le cairn de cette pointe du Sourd. Il est moins grand que celui de Barnenès dans le Nord Finistère, mais il est déjà très imposant.
Sur la pointe du Sourd, vous avez des dolmens qui datent du néolithique moyen. Donc, ils datent à peu près de moins 4500, moins 3500 environ. Il y a 5 dolmens ici qui se suivent. Selon l'archéologue qui a fouillé le site de 2001 à 2006, l'archéologue départemental Michel Le Goffic, le cairn devait peut-être surmonter les dolmens sur une hauteur de 6 mètres environ. Vous avez vu où on est, hein, je vous ai dit, on est en plein cœur de la baie d'Audierne. Ça n'a pas été construit ici par hasard. Déjà, les dolmens, il faut savoir que ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas enterré dans un dolmen. C'est l'élite qui est enterrée dans le dolmen. Et le dolmen, eh bien, il faisait 6 mètres de hauteur, il est sur une pointe, en plein cœur de la baie d'Audierne. Ça veut dire que les gens qui étaient ce qu'on appelle maintenant, hein, ça n'avait pas les mêmes noms à l'époque, et qui étaient à Pénors, par exemple, ils voyaient le dolmen ici, ils voyaient les dolmens, ils voyaient le tumulus. Donc c'est un lieu vraiment pour être vu.
Si le vent est froid, Lauriane vous montrera comment faire un feu néolithique en une minute.
Il nous faut du silex, une pierre qui contient du fer, donc moi ici j'ai une marcassite. Et il nous faut de l'amadou. Alors l'amadou, eh bien, ça vient d'un champignon qu'on appelle amadouvier. Voilà, ça c'est un amadouvier. Et dans l'amadouvier, vous avez une substance qui est un peu feutrée, c'est l'amadou. Et l'amadou, c'est très bien. Ça va récolter les étincelles et puis la braise, elle va se former lentement. Et l'amadou, eh bien, on peut s'en servir également pour faire des capes ou des chapeaux. Voilà, vous voyez, c'est pas si long que ça. À faire du feu, par la méthode par percussion. Donc maintenant, vous savez comment allumer votre barbecue cet été.
Le site extérieur est complété d'un centre d'interprétation que je vous conseille de visiter. Adressez-vous à l'office de tourisme de Plouhinec.